Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Il est important de considérer avec un respect sincère les manières d'agir et de vivre des autres religions qui, quoi qu'elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elles-mêmes tiennent et proposent, reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. C'est ainsi que le 28 octobre 1965, les pères conciliaires ont invité les chrétiens au dialogue avec les autres religions. Ce dialogue se poursuit dans chaque diocèse. Aujourd'hui, avec les juifs et les musulmans, nous nous intéressons ce matin au dialogue islamo-chrétien. Le dialogue islamo-chrétien, une fraternité en chemin, c'est l'objet de la journée de réflexion organisée par le diocèse de Toulouse le 12 juin. Y intervient Monseigneur Claude Raux, évêque émérite d'Algérie. Il est l'invité de Radio Présence. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
À vos côtés, le père Norbert Mukwanga, également père blanc et curé de l'ensemble paroissial des Minimes à Toulouse. Bonjour père.
Bonjour.
Merci de prendre ce temps pour échanger sur ce nécessaire dialogue entre les chrétiens et les musulmans. Vous avez passé, Monseigneur Claude Raux, 47 ans en Algérie, d'abord au service d'un centre de formation professionnelle, puis dans l'enseignement public algérien. Qu'avez-vous découvert de la vie et de la foi des musulmans à cette époque ?
Alors ce que j'ai découvert et ce qui m'est venu en pleine figure, si je peux dire, c'est la transcendance, le sens de la transcendance de Dieu des musulmans au milieu desquels j'évoluais, soit comme enseignant, soit comme dans une toute autre façon d'être. C'est vraiment une omniprésence de Dieu dans leur existence et qui donne sens à la globalité de leur vie. On peut dire que cette foi est très englobante et au niveau de la personne et très souvent aussi au niveau de la société.
Est-ce que vous auriez un exemple pour illustrer justement ce caractère de globalité ?
Je prends l'exemple de la prière. C'était courant, et c'est encore courant de voir qu'on interrompt les activités pour le temps de la prière, qui n'est pas très long, hein, mais qui se présente comme une espèce de rupture avec le présent, pour se tourner vers Dieu. Et ces cinq prières du jour sont très importantes pour donner sens à la vie et à la vie personnelle et à la vie commune aussi, là où c'est possible.
Mmh. C'est un peu ce que vivent les moines, puisque quand ils travaillent, ils interrompent leur travail pour ces temps de prière.
Tout à fait. Et souvent, les musulmans, d'ailleurs, qui sont accueillis dans un monastère, sont très sensibles à cette dimension-là.
Ah oui. Oui. Vous étiez, père Norbert, dans le diocèse d'Oran, au nord de l'Algérie. Qu'avez-vous découvert, vous aussi, de la vie et de la foi des musulmans ?
Alors, personnellement, ce que j'ai découvert, c'est d'abord la personne humaine. Hein? Parce que partant de la République démocratique du Congo et puis de Burkina où j'étais pour le noviciat arrivé à Oran, j'avais beaucoup d'appréhension. Et donc, pour moi, la première des choses, c'était cette découverte du frère, de la sœur. Ça, c'était pour moi une découverte, quelque chose qui m'a fait du bien. De deux, du point de vue de la foi, j'ai découvert évidemment des personnes engagées et qui sont soucieuses de soigner leur relation avec la transcendance, comme disait Monseigneur Claude Raux, donc ce lien avec la transcendance. Ça interpelle au niveau de notre foi et ça m'interpellait aussi et ça m'interpelle toujours au niveau de ma foi personnelle, mon contact personnel avec celui que j'appelle mon créateur, Dieu, évidemment.
De quelle façon ça vous interpelle ?
C'est toute la question de la fidélité. C'est toute la question de la place de la prière dans ma vie. Quelle place ? Comment est le lien avec mon Seigneur, ce Dieu ? Est-ce qu'il s'agit seulement d'une prière, d'un lien où je lui présente un cahier de charges que je veux, ou c'est aussi une relation qui est plus simple, facile, comme la relation avec un ami, ou comme je parle avec vous, les deux maintenant là. Voilà, c'est un peu ce que j'ai découvert au final. C'est quoi la prière? Bon, je ne juge pas d'abord la qualité, mais à le voir, ce mouvement, aller à la mosquée, prendre du temps par rapport à leur temps de prière, m'interpeller et m'interpelle. Et quelque part, ça nourrit aussi mon lien personnel avec le Seigneur.
Eh oui, on l'entend. Vous avez été nommé Monseigneur Vicaire Général du diocèse du Sahara, Lagouat, en 1987. Et vous alliez à la visite des communautés religieuses dispersées sur un territoire grand quatre fois comme la France, m'avez-vous dit. Puis de 1999 à 2004, vous étiez provincial des Pères Blancs pour l'Algérie et la Tunisie. Et enfin, vous avez été consacré évêque du diocèse de Lagouat, au sud de l'Algérie. Et vous y êtes resté 13 ans. Comment ces communautés religieuses, donc chrétiennes, vivait-elle au milieu de la population musulmane?
Eh bien, dans un grand esprit de fraternité, et puis aussi un peu comme des petites graines au milieu d'un monde, au milieu d'une terre qui était très tournée vers l'hôte.
L'hôte avec un H.
L'hôte avec un H. Il y a un proverbe qui dit en arabe, Div Difrabbi, celui qui est un hôte et un hôte de Dieu. Donc, ces communautés-là étaient très insérées au milieu d'une population qui était très majoritairement musulmane. Et puis, l'histoire a fait qu'elles ont été non seulement accueillies, mais considérées comme des leurs, quoi. Ça, c'était très important. Depuis, disons, l'arrivée des Pères Blancs, des Sœurs Blanches, à la fin du siècle, du 19e siècle, bon, le marquage aussi, disons, par des nouvelles communautés s'inspirant de Charles de Foucault, ont fait que ces petites communautés chrétiennes étaient très insérées et sont restées très insérées en milieu musulman. Et malgré les années difficiles, ce qu'on appelle les années noires, elles sont restées et souvent ont été protégées aussi par l'environnement des musulmans.
Mmh. Donc, en fait, elles ont été accueillies comme les musulmans accueillent tout autre, même si ça n'était pas la même religion.
Oui, au contraire, on marquait souvent la différence, mais cette différence pouvait prendre, comme disait le frère Christian de Chercher, le sens d'une communion. N'est pas les différences qui pouvaient rendre ces communautés chrétiennes étrangères, mais qui les rendaient peut-être plus attrayantes encore de par leurs propres différences.
Père Norbert, vous avez passé 5 ans comme jeune prêtre dans ce même diocèse, donc ce diocèse de Lagouat. Que voulez-vous témoigner de la coexistence des communautés chrétiennes parmi les musulmans?
Alors oui, j'ai vécu dans ce diocèse de Lagouat Garadaya où Monseigneur Claude Ho était évêque. Il m'avait accueilli en Algérie comme stagiaire, donc séminariste, missionnaire d'Afrique. Il était provincial et j'avais eu donc la joie de le retrouver à Garadaya comme évêque. Et c'est lui qui m'a confié d'abord sa cathédrale, comme curé de sa cathédrale. Et après, j'étais engagé dans le service le centre de recherche saharienne. Qu'est-ce que moi j'ai découvert et qu'est-ce que vraiment cette réalité des petites communautés chrétiennes dans ce milieu? D'abord, faut dire qu'il y a une amitié certaines qui se tissent. D'abord entre cette petite communauté, d'accord, mais cette communauté aussi en lien avec ses frères et sœurs. Ça fait un. De deux, c'était aussi plaisant de vivre dans une petite communauté, mais où finalement le lien n'était plus seulement au niveau foi, mais c'était aussi plus étendu au niveau même humain.
Donc de la vie quotidienne.
De la vie quotidienne. Je vais donner un exemple pour moi. Pendant mon temps à Gardaïa, c'était difficile pour les enfants, par exemple, de me dire Norbert. Et donc, dire Norbert, c'était difficile. J'ai donc hérité d'un nom, Nour el-Din, Nourdin. Nour el-Din qui veut dire la lumière de la religion. Ça traduit donc la réalité qui est cette réalité d'une petite communauté dans un milieu, évidemment, qui est un milieu frère, mais qui est assez haut et assez bas. Et donc, c'est cette réalité-là qui fait que c'est une petite lumière qui luit. C'est un petit témoignage de vie quotidienne. Et à l'intérieur de cela, eh oui, Dieu se révèle. C'est à lui la mission. Nous contribuons.
Au moment des insurrections puis des attentats dans les années 88 jusqu'en 2000, il y a eu 200 000 morts en Algérie. Malgré le danger, l'Église a choisi de rester aux côtés de la population algérienne. Pourquoi a-t-elle fait ce choix ?
Je retiens, je n'étais plus en Algérie à ce moment-là, j'étais en charge du noviciat à Fribourg, le noviciat des missionnaires d'Afrique, et j'entendais à la radio l'interview entre un journaliste et un petit frère de Jésus. Et le journaliste a demandé, mais mon père, pourquoi vous restez ? Qu'est-ce qui vous fait rester au milieu de cette population ou dans laquelle vous êtes en danger ? Et il a eu cette réponse que j'ai trouvée très, très pertinente et presque prophétique. Ce n'est pas parce que ma femme a perdu la tête que je vais la quitter. Effectivement, nous étions dans un pays à ce moment-là, un pays qui avait tourné, qui avait perdu la tête, puisqu'il y avait des assassinats qui...
Beaucoup de violence.
Beaucoup de violence. Et quelquefois, même à l'intérieur des familles, vous aviez un membre de la famille qui était dans le maquis, un autre qui était dans l'armée, un autre qui était dans un combat politique. Tout à fait. Et ce qui marquait la différence, et voire même la division à l'intérieur. Et le fait de rester là, fidèle au milieu de ce peuple, comme disait le père Clavry, comme auprès d'un mourant, auprès d'un malade, simplement pour lui tenir la main, c'est ce qui a fait, disons, toute la force de l'Église qui est restée et aussi qui a été en grande partie protégée par les musulmans eux-mêmes. C'est ça qu'on oublie.
C'est justement ce que j'allais vous demander, comment elle a fait pour pouvoir rester, parce qu'il fallait aussi qu'elle ait du soutien.
Oui, il y avait soutien de la population, d'une très grande partie de la population. Et la désolation était grande lorsqu'on apprenait par les médias qu'un religieux, qu'une religieuse avait été assassinée. Il y avait souvent une protestation profonde, même de la part d'hommes politiques algériens qui n'étaient pas du tout dans la perspective du pouvoir en place. Mmh. Oui.
On se souvient quand même de l'émotion suscitée lors de l'assassinat des moines de Tibérine. C'était dans la nuit du 26 au 27 mai 26 au 27 mars 96. Et puis évidemment aussi l'assassinat de Monseigneur Clavry le 1er août 96. Ça a quand même dû bouleverser, chambouler et peut-être fragiliser l'Église à ce moment-là en Algérie.
Je pense que ça ne l'a pas fragilisé, ça a plutôt fortifié sa présence en lui donnant des racines profondes. Je prends le cas de l'assassinat de Mgr Clavry le 1er août 1996. Il rentrait donc un soir d'une visite à Alger. Et son chauffeur et ami était venu le chercher à l'aéroport. Il rentre à l'évêché et puis passe devant une porte. Et il y a eu une bombe, une charge explosive qui a éclaté à ce moment-là et au fond le Monseigneur Clavry et son ami Mohamed ont été emportés par cette porte et vraiment physiquement leurs sangs se sont mêlés et je crois que c'est au niveau du signe, c'est quelque chose de très fort. Le sang de Pierre Clavry et de son ami et chauffeur Mohamed se sont mêlés. Et ça a eu une très grande répercussion, la vision d'une église présente avec et à l'intérieur du monde musulman.
Et est-ce que ça voulait dire, justement, avec ce sang mêlé, que finalement, toucher à l'église catholique, ça faisait aussi du mal aux musulmans ?
Oui, ça c'était une blessure profonde et qui demeure encore pour certains musulmans de dire mais nous n'avons pas su protéger les chrétiens qui étaient là alors qu'ils ont été les premières victimes. Il y a une sorte de dette qui s'exprime quelquefois à travers cet événement tragique et qui a beaucoup marqué l'Église et beaucoup marqué le monde musulman aussi. Mmh.
Père Norbert, dans cette fidélité de l'Église, dans les temps troublés et avec beaucoup de violence en Algérie, qu'est-ce que vous diriez de cette fidélité pour notre temps? Comment ça peut nous éclairer?
Personnellement, c'est un signe très fort dans la fidélité. Les frères et sœurs ont choisi de rester. Et quand j'écoutais le témoignage en Algérie, je me rappelle les sœurs Ablida, une fois j'ai discuté avec elles, elles m'ont dit que oui, à ce moment-là, c'était l'archevêque Tessier, si je ne me trompe pas, qui est passé leur dire si elles avaient peur, elles pouvaient partir. Elles ont choisi de rester. Et l'évêque leur a posé la question, pourquoi? Pourquoi vous choisissez de rester et pas de partir?
Malgré le danger.
Malgré le danger. Et personnellement, j'ai été troublé par leur réponse, que j'ai eue aussi à Oran, quand j'étais à Oran, quand on entend les frères et sœurs dire pourquoi ils sont restés. C'est toute cette question de l'amitié. On connaît ce proverbe qui dit « Le capitaine n'abandonne jamais son navire ». Mais je pense que ce proverbe peut être appliqué, mais pas dans le même sens. Et donc, la fidélité de ses frères et sœurs a permis que l'amitié a été encore plus forte. Et pour moi, je pense que c'est une leçon pour nous tous. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on est frère ou sœur, et quand ça va mal, on fuit. Non, il est important dans cette marche, dans ce royaume qui est, dans lequel nous appartenons, rester fidèle. Et c'est encore significatif quand l'autre traverse des moments difficiles. Et c'est important. Pour moi, je dis, je ne dirais pas félicitations, mais je dirais une action de grâce par rapport à ce signe que les frères et sœurs ont été. Et de l'autre côté, j'ai entendu beaucoup de musulmans, beaucoup, qui, comme disait Mgr Claude Roux, qui se disait « Pourquoi cela est arrivé? On a été incapable de protéger. » Comme si ce sont eux qui devaient, alors qu'ils étaient aussi, il y en a quand même beaucoup qui étaient victimes. Vous savez, c'est fort ce symbole que le sang s'était mêlé. Ça signifie vraiment cette unité, cette amitié, cette fraternité. Au final, oui, les chemins sont différents. Le Dieu que nous appelons différemment Allah ou bien Dieu, oui, mais nous professons ce Dieu d'une manière différente, mais il nous touche. Et il fait de nous vraiment, je pense, des humains, parce qu'avant d'être quand même divins, soyons d'abord des humains.
C'était effectivement une première étape. Je vous propose de marquer une pause musicale. Nous écoutons « Unis comme des frères » interprété par Open.
À l'ancien qui se tient penché sur le monde, à l'enfant insouciant perdu dans la ronde, à celui qui attend que vienne sa chance, au meilleur d'entre nous noyés d'indifférence, à tous ceux qui ont eu foi en l'avenir, même celui qui n'a plus d'espoir à saisir, à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble. On respire tout
tout ce que j'aime, à nos pleurs, nos sourires cachés en nous-mêmes, à celui dont la nuance est force et peut déplaire, à toi l'ami endormi sous le pain du cimetière. Aux rebelles incompris, aux héros d'hier, de demain, d'aujourd'hui et à la terre entière, à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble. Respire. Tout le monde espère, ici debout les pieds sur terre, unis comme des frères, parce qu'on a la vie, parce qu'on a des rêves, on chantera toute la nuit cette terre, on dansera toute la nuit, j'espère, on restera unis comme des frères. La 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 des rêves, on chantera toute la nuit cette terre, on dansera toute la vie, j'espère, on restera unis comme des frères, comme des frères, toute la vie, j'espère, toute la vie, j'espère, unis comme des frères.
Église, Isabelle Duché.
Le dialogue islamo-chrétien, une fraternité en chemin, c'est l'objet de notre échange aujourd'hui avec les invités de Radio Présence, Monseigneur Claude Roux et le Père Norbert Mukwanga. Je voudrais que nous revenions quelques minutes sur cette fidélité de l'Église au long cours dans toute cette histoire de l'Algérie. Cette fidélité de l'Église, quelle a été, Monseigneur Claude Roux, la fécondité de cette fidélité?
Alors la fécondité nous échappe un peu, mais si nous nous posons, nous mettons du côté de la seule Église, évidemment, numériquement parlant, ça ne nous parle pas beaucoup. Si nous nous posons du côté de la croissance du royaume de Dieu, ça c'est autre chose parce que cela nous échappe totalement. Je me souviens que... Je crois que c'est au début des années 2000, le pape Jean-Paul II avait reçu à sa table les évêques d'Afrique du Nord. Je n'étais pas encore en charge à ce moment-là. Et il avait écouté les évêques et leur avait dit en fin de repas, au fond, si je comprends bien, l'important pour vous, ce n'est pas de faire nombre, mais d'être signe. Et je crois que c'est quelque chose qui est très, très actuel pour notre Église aujourd'hui, mais aussi pour notre Église en France, par exemple. Alors, cette fécondité se mesure à l'aune du royaume de Dieu. L'Église n'est pas dans le monde pour elle-même, pour faire du chiffre, comme on pourrait dire, mais elle est là pour une qualité de vie et une qualité de rayonnement. Je crois que l'importance de l'Église par rapport au royaume, c'est de rendre d'abord le royaume de Dieu présent, de célébrer le royaume de Dieu autour d'elle, qu'elle voit que ce royaume est en croissance de façon invisible, mais de le célébrer. Je crois que le sens de l'Eucharistie est très important, de recueillir tout ce qui se vit, disons, comme valeur du royaume. Et puis aussi une reconnaissance du royaume de Dieu à l'extérieur d'elle-même. N'emprisonnons pas Dieu dans nos catégories, dans notre Église, mais essayons de le voir aussi à l'œuvre, à travers l'autre, en dehors de l'Église. Et vous l'avez dit au tout début dans le texte de Vatican II, Il y a des valeurs profondes qui se vivent dans notre temps et qui nous échappent, que l'on ne voit pas, mais que l'on reconnaît. Donc l'Église est la servante, est au service du royaume de Dieu, d'un royaume qui est beaucoup plus grand qu'elle, pour le reconnaître, pour le célébrer et pour le faire croître, quoi. Mm-hmm. Et ça, de mesurer l'importance de l'Église comme servante du royaume et non pas pour elle-même, et me paraît très important, même dans le monde, en Occident, en France aujourd'hui, tel que je le redécouvre après 50 ans d'absence, que le royaume de Dieu, il est là, mais il faut savoir le percevoir.
Et oui, bien sûr. Alors, je voudrais que nous allons terminer un petit peu les grandes lignes de votre parcours. Vous avez été, Monseigneur, membre du Service national pour les relations avec les musulmans. Quelles sont les valeurs communes, pour reprendre l'expression du pape François, entre le christianisme et l'islam ?
Je crois que tout cela est exprimé admirablement bien dans le document d'Abu Dhabi, qui, pour la première fois, est un document qui a une valeur universelle, qui n'est pas normatif, mais qui est signé, co-signé par un pape et puis un grand chir de Lazar, le chir Ahmad Tayeb.
À quelle date ?
C'est le 4 février 2019.
D'accord.
Donc, qui est un document, disons, de référence, qui n'est pas nécessairement normatif, mais qui est très, très éclairant pour notre aujourd'hui. Et cela donne les valeurs fondamentales affirmées et par un musulman de grand renom et par notre pape François. La valeur de la fraternité humaine et de la coexistence dans le monde. On ne s'appuie pas uniquement sur des valeurs qui sont, disons, en rapport avec la foi, mais en rapport avec le sens d'une humanité commune vécue et par des musulmans et par des chrétiens et reconnue sur un certain nombre de valeurs dont nous allons parler, je crois, mercredi prochain ensemble.
Père Norbert, vous intervenez aux apprentis d'Auteuil auprès d'étudiants musulmans et vous êtes curé de paroisse dans un quartier toulousain en pleine mutation, si on peut dire, le quartier des Minimes et le quartier de Bordeaux-Rouge. Que constatez-vous de ce socle commun entre les chrétiens et les musulmans ?
Le 16 mai, il y a eu une petite vidéo qui a été faite sur la construction de l'église Saint-Sauveur à Bordeaux-Rouge. Et il y a un vendeur dans une boucherie qui intervient et qui dit « Les chrétiens, on les connaît, on les côtoie, nous sommes heureux de vivre ensemble. » Et puis il continue, c'est bien qu'ils viennent acheter de la viande et ainsi de suite, pas de soucis. Mais cela traduit déjà cette amitié qui est là. Fratelli tutti. François, ce livre-là magnifique qui a dit « Nous sommes tous frères ». Et donc si nous sommes frères, il y a alors des liens que nous pouvons tisser tout en respectant l'autre. Je connais aussi un proverbe qui dit « Ma liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence ». Et dans ce sens, permettez-moi une petite déviation, j'ai dit « Pour moi, la violence, qu'importe le côté où elle vient, elle est à condamner. Aujourd'hui, ça devient encore très difficile de voir ce qui se passe, regardons le monde entier, partout de la violence. Bon, Ukraine, Russie, Gaza, Israël. Et si vous vous mettez d'un côté, vous serez taxé, je ne sais pas, de ceci. Vous vous mettez de l'autre, vous serez taxé, ainsi de suite. Mais pour moi, je préfère qu'on dise et qu'on soit clair, la violence, qu'importe où elle vient, elle est à condamner. Il n'y a pas sur cette terre une balle ou une bombe qui soit sainte. Qu'elle vienne du côté Israël, qu'elle vienne du côté Gaza, qu'elle vienne du côté Russie, qu'elle vienne du côté Ukraine, qu'elle vienne du Congo, qu'elle vienne du Rwanda, elle détruit. Et donc, le socle qui doit nous lier, c'est cette fraternité, la reconnaissance de notre humanité. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et cela, j'essaie de le vivre dans le quartier des Isards, avec toutes les réalités des drogues, Mais oui, il y a quand même une présence importante de nos frères, frères et sœurs musulmans. On le côtoie. Je suis présent de temps en temps, mes paroissiens m'appellent pour une visite ou une autre. Il m'arrive aussi, malheureusement, de passer au moment où, bon, des choses se vivent et, bon, on est là. Ou alors, de dialoguer pour dire, écoute, et si, par exemple, tu prenais une autre direction?
Et vous êtes voilà. Entendu?
Alors, est-ce que la parole porte de fruits ou bien, ça, je ne sais pas. Mais je préfère rester au niveau de dire, j'apporte ma petite pierre de contribution à cet édifice, mais quel résultat, je ne pourrais pas vous le
mais
dire.
Mais comme dirait Sainte Bernadette, je suis chargée de vous le dire et pas,
voilà.
Et pas de vous le faire.
Voilà.
Hein? J'aimerais intervenir oui. Là aussi sur le sens de l'existence de Charles de Foucault, qui était seul chrétien au milieu des Touaregs, en particulier au moment où il était à Tamanrasset. Et il a découvert que, il disait que ma pastorale, en gros, ma pastorale doit être celle de la bonté. Il faut qu'en me voyant vivre, ceux qui me voient vivre se disent, mais il doit être bon ce Dieu qu'il sert, parce que lui, il est bon. Et au fond, Charles de Foucault a décidé à un moment donné, parce qu'il s'apercevait que, au fond, une évangélisation directe n'avait pas de sens, qu'il avait, lui, à être une page d'évangile, de par sa propre existence, crier l'évangile par toute ma vie, disait-il, non, et non pas sur les toits. Et je crois que le sens d'une présence chrétienne en contexte musulman y est pour beaucoup à partir du moment où l'on est bon. Alors la fraternité, bon, la fraternité pour moi c'est un fait. Mais il faut aussi mettre l'amour dans cette fraternité. Ce n'est pas évident, parce qu'on peut aussi être en frères et ennemis. Et la fraternité comporte aussi des affrontements entre frères. on le sait trop. Mais transformer petit à petit cette fraternité en amitié, c'est pour moi encore plus évangélique que de prendre la fraternité comme un fait en soi.
Vous avez cité Charles de Foucault, il a été donc déclaré saint le 15 mai 2022, et comme évêque en 2004, vous avez présenté sa béatification, Monseigneur.
Oui, oui, oui. Alors c'est là que je me suis fait rattraper par lui, parce que bon, je le connaissais surtout à travers les communautés diocésaines qui étaient là, qui se référaient à la spiritualité. Et puis, au fond, étant en charge de sa béatification et de la proclamation de sa béatification, là, je me suis mis à m'intéresser plutôt à sa vie, bon, à ce qu'il a écrit aussi, mais au défi de sa vie et de son existence. Et j'ai découvert toute l'actualité de cet homme pour notre aujourd'hui et pour ce que peut-être un missionnaire de l'Évangile dans notre monde d'aujourd'hui. D'être une présence significative, une présence évangélique, tout en acceptant de ne pas diffuser largement le message du royaume de Dieu, mais en étant des témoins et des vivants de ce que nous proclamons.
Mm-hmm. Père Norbert, vous voulez ajouter quelque chose?
Je voulais intervenir, c'était sur la question de dire oui. Des frères, parfois, on peut être en tiraillement, quoi. Ce qui est tout à fait normal. Quoi. Parce
humain.
Que là, ça révèle, c'est humain, ça révèle évidemment que nous sommes des bons vivants. S'il n'y a pas quelque chose de pareil, non. Mais ça nous permet d'approfondir nos liens. C'est un peu dans ce sens que nous intervenons sur les apprentis d'Auteuil.
Bien sûr, oui, oui.
Et c'est très beau, avec une musulmane, on échange avec ses frères et ceux qui sont là, à qui on donne la chance pendant un temps de se ressaisir, de faire mieux dans leur vie. Et nous échangeons sur différents thèmes qui concernent évidemment cette présence qui est la
oui.
nôtre.
Mmh.
Oui.
On a beaucoup reproché à l'Église d'être, et aux chrétiens d'être levain dans la pâte et parfois trop caché. Comment trouver le juste équilibre entre la présence des chrétiens dans un monde musulman et puis la nécessaire annonce quand même de l'Évangile? Monseigneur.
Moi, je pense que nous n'avons pas à nous cacher. à partir du moment où nous agissons en fonction de l'esprit évangélique, bon, c'est tout le mystère de la présence de Jésus pendant 30 ans, où finalement il n'a pas prêché, il n'a rien dit, il a été là. Et il a donné sens aux 3 années qui ont suivi, mais à partir du moment où il est venu dans notre monde, il commençait déjà à sauver le monde. Donc, et je crois que cette présence de l'Église est significative si elle vit vraiment du message qu'elle veut proclamer et qu'elle proclame.
Est-ce que pour autant il faudrait se dire qu'on doit révéler nos différences que pour mieux nous exercer à la miséricorde?
Oui, il faut entamer un dialogue. Je pense que c'est très 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 important. Il faut être en dialogue et avec le monde musulman et avec toute personne. C'était l'expérience de Jésus, l'expérience de la vie de Jésus a été une expérience de rencontre finalement. Jésus est allé à la rencontre de l'humanité qui était la sienne, mais il a posé des actes, et des actes qui ont été des vraies questions et pas toujours des réponses toutes faites aux questionnements qui pouvaient lui être posés. Et ça, c'est très important, et je crois que la crédibilité de l'Église, elle est là. De poser des actes et de ne pas être simplement un haut-parleur, disons, du message évangélique, mais dans sa chair, qu'elle vive intensément le message qu'elle veut proclamer.
Mmh. Bernard Bert.
Je pense que ce qu'il nous faut, c'est de regarder Jésus lui-même. Parce que nous sommes chrétiens, donc disciples. Il est vrai que parfois, quand il y a des événements malheureux qui sont posés, peut-être, bon, du côté de l'Église, on dit, mais l'Église est faible. Ça, je l'entends. Et même du côté de mon ensemble paroissial, j'entends parfois des paroissiens qui disent cela, que mais pourquoi ne pas faire comme les autres? Si ceci était fait là-bas, bon, prenons les juifs, prenons les musulmans, voici ce qui serait fait. Et vous, vous êtes là, on est faible. Eh bien non. Eh bien non, c'est pour moi une mauvaise lecture. Il faut pour moi être, c'est Jésus lui-même, en plein milieu de ce frère, de ce peuple qui sont ses frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut aussi avoir le courage de dire la vérité. Il faut le courage d'être signe, de témoigner vraiment. Et ces témoignages n'engagent pas la violence ou quoi, mais non, la vérité, la miséricorde, l'amour. Il y a tout au début, un jour, quelqu'un avait tagué sur l'église de Minimes, c'était, voilà, l'église brûle. C'était ça, l'église brûle. Et j'ai appelé Allo Toulouse pour venir effacer. Mais avant, il y a quelqu'un qui passait et qui m'a vu, qui m'a dit, mais père, laissez. J'ai dit, mais non, on ne peut pas laisser ça. Il dit, non, ce qu'ils ont écrit est vrai. Une église qui aime est une église qui brûle d'amour.
Oui.
Voilà ce que la personne m'avait dit. Et donc, quelque part, c'est vrai, ça dérange ou bien quoi, mais ce n'est pas par une force, par une violence. Non, il y a d'autres moyens de l'être. Et c'est ce témoignage de vie.
C'est très important. Je crois que la chance de l'Église de France aujourd'hui, c'est sa précarité. C'est-à-dire que l'Église se laisse dépouiller. C'est un fait que beaucoup de chrétiens quittent l'Église sur la pointe des pieds, et l'Église s'amenuise. Mais c'est peut-être sa chance de pouvoir, se recentrer sur des valeurs évangéliques profondes qui ne font pas les médias, mais qui sont susceptibles de changer notre monde. Le cardinal Martini disait en substance que l'Église ne subsistera que grâce à des petites communautés chrétiennes qui se réapproprieront l'Évangile et qui en vivront. Et voilà, c'est ce tissu-là qui peut-être est le plus porteur d'espoir pour notre Église d'aujourd'hui.
Voilà, ce sera la conclusion de cette émission. Merci beaucoup, Monseigneur Claude Roux. Merci aussi à vous, Père Norbert Mukwanga. Et puis, bonne journée du 12 juin sur la fraternité entre les chrétiens et les musulmans.
Et merci de l'accueil de l'Église de Toulouse. Oui.
Merci à vous.